I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 8 and verse 11.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 11. Romains, chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et je considère aujourd'hui, dans cette étude, le processus de la sanctification. Et récemment, nous avons fini une série d'études et avant de commencer une autre série, nous avons là l'occasion de considérer des sujets particuliers, le processus de la sanctification. La semaine dernière, nous avons considéré le remède à la tiédeur spirituelle. Et c'est important à présent de voir l'enseignement inspiré de l'apôtre Paul sur la sanctification cette semaine. Tout d'abord, la sanctification commence avec le salut. Ceci est évident, sans la conversion à Christ, sans le salut, il ne peut pas y avoir de sanctification, pas de progrès dans la vie, pas d'avancée, pas de progrès dans la sainteté. Ceci semble évident, mais il est nécessaire pour l'apôtre Paul de souligner ceci. Et je reviens au verset 3 et nous allons considérer ces versets consécutifs. Dans ce premier point, la sanctification commence avec le salut. Au verset 3, l'apôtre Paul dit « Car ce qui était impossible à la loi c'est les 10 commandements, non seulement les 10 commandements, mais également l'explication des 10 commandements qui est donnée par Moïse. Et souvenez-vous, ces 10 commandements, chacun d'entre eux est une indication de toute une famille de péchés. Quand vous voyez ces commandements négatifs, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Et nous devons toujours nous souvenir, et c'est ce que nous faisons, que chaque commandement est simplement le titre d'une famille de péchés. Le commandement de ne pas tuer, par exemple, est un ensemble qui également implique de faire mourir la joie de quelqu'un ou la liberté de quelqu'un. C'est le péché principal, c'est tuer quelqu'un, tuer le corps, mais il y a également d'autres péchés dans ce commandement particulier et nous devons toujours considérer la vertu positive, la vertu opposée de ce commandement. Ce n'est pas suffisant que de ne pas tuer quelqu'un et de ne pas priver quelqu'un de sa liberté, mais nous devons également donner ces choses, donner la liberté et la joie aux autres. Et quand vous voyez que Moïse explique ces commandements, ceci est si profond et un résumé de toutes sortes de choses que Dieu requiert de notre part. La loi est merveilleuse et profonde. Aussi seulement nous pouvions y obéir, alors notre société serait si différente. Nous serions des gens bien différents, mais il y a un problème dans la loi. Elle n'est pas mauvaise en elle-même, elle est parfaite. C'est la loi parfaite de Dieu, la justice parfaite de Dieu qui est merveilleuse, qui décrit une personne parfaite, une société parfaite. Si seulement nous pouvions accomplir cela. Mais il y a une faiblesse dans la loi. La faiblesse n'est pas dans la loi, mais dans un sens, elle y est. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul l'explique au verset 3 du chapitre 8. « Car ce qui était impossible, la loi, même si elle est merveilleuse et parfaite, et ses critères moraux sont tellement élevés, car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie, une faiblesse terrible, non pas une erreur, mais une faiblesse par la chair. C'est là le problème, parce que la faiblesse dans la loi, elle est en nous, parce que la loi requiert de notre part que nous y obéissions volontairement, de manière délibérée. La loi requiert notre obéissance, et si les gens dans la société qui devraient obéir à la loi, si les gens sont pleins de péchés, corrompus et faibles, alors la loi ne peut pas les aider. Ainsi, dans un certain sens, il y a une faiblesse dans la loi. Cette loi parfaite, si parfaite, et faible, à cause de la chair, c'est-à-dire à cause de la nature de péché qui a chuté. Quand vous lisez dans Romains 8 ce terme « chair », pensez à cette nature de péché qui a chuté loin de Dieu, parce qu'elle était affaiblie par la chair. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, malgré toute la perfection de la loi, il n'y a pas d'espoir pour la race humaine. Il n'y a pas d'espoir pour aucun individu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nous-mêmes, nous ne pouvons pas mériter le ciel, nous ne pouvons pas être bénis par le Seigneur, et pour toujours nous serons loin de lui sous sa condamnation. Et la loi ne peut pas nous aider. C'est comme si quelqu'un a été un vagabond sur le chemin pendant des semaines, pendant des mois, des années, et qui sent mauvais, qui n'a pas pu se laver. Et même si vous les revêtez du plus beau vêtement de cachemire possible, et c'est merveilleux, et un vêtement si parfait, si beau, mais cependant ils sentent encore mauvais. La loi est parfaite, mais elle ne peut pas nous rendre capables d'aller au ciel à cause de la corruption de notre nature humaine, parce que nous ne pouvons pas obéir à la loi. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Faites attention ici, il n'était pas péché, il était parfait, sans aucun péché, mais dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire dans un corps humain avec toutes ses faiblesses, avec sa souffrance, ses besoins, etc., sa faiblesse. Christ est venu dans un corps humain faible, fragile. Ainsi, personne n'aurait jamais pu dire que, oh, quand Dieu est venu dans une nature humaine, il a gardé toute sa force. Ainsi, il avait un avantage qui n'était pas juste. Non, il est venu dans un corps humain faible. Et malgré cela, il a vécu une vie parfaite, merveilleuse, pleine de justice et de droiture, plein de vertu, de bonté, constamment. Toutes ces choses merveilleuses qu'il a faites, tout en lui était parfait. Il était si parfait que sa perfection a continué malgré cette grande provocation, cette tentation auquel il a dû faire face. Et sa justice peut être imputée pour nous, si parfait qu'il peut mériter le ciel à la place de tous ceux qu'il va sauver. Et également dans sa chair, il est allé à la croix du calvaire et là, il a pris sur lui-même toute la condamnation, toute la culpabilité de notre péché. Il a été condamné à notre place avec ce tourment terrible dans son âme et cette souffrance terrible dans son corps. Cette condamnation qu'aucune parole humaine ne peut décrire, nous ne pouvons pas la mesurer. La condamnation éternelle du péché pour tous ceux qui seront pardonnés à leur place. Au verset 3, Dieu, en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné Christ à notre place. Notre condamnation a été portée par Christ et il a ôté le péché. Il a tout porté à notre place. Ainsi, notre condamnation n'est plus là. Et si nous sommes pardonnés, si nous sommes venus à Christ, que nous nous sommes confiés en lui, alors tout ce fardeau d'iniquité, de péché, de culpabilité est ôté et il n'y a plus de condamnation. Et ceci change tout dans notre vie, au verset 4, « afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. » À présent, la culpabilité est ôtée, la condamnation est ôtée. À présent, est-ce possible que nous pouvons vivre pour Dieu? Oui, parce que notre nature est complètement transformée et il nous donne un nouveau départ et il nous donne le Saint-Esprit qui nous rend capables d'obéir à la loi, qui transforme tous nos enclins, nos goûts. Nous sommes sauvés par ce que Christ a fait pour nous. Et maintenant, parce que nous sommes sauvés, nous voulons, nous aspirons à garder la loi au verset 4, afin que la justice de la loi qui était faible, quand Nous étions encore des pécheurs dépravés et corrompus que nous ne pouvions pas obéir à la loi, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit, par la capacité que nous donne le Saint-Esprit. Nous pouvons commencer à obéir à la loi. Et au verset 5, ceci est expliqué encore mieux, car ceux qui vivent selon la chair, qui sont modelés selon la chair ou conformes à la nature humaine de péché, qui ne sont pas pardonnés, qui ne sont pas sauvés et transformés, car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Avant le salut, tout ce qui nous intéresse, c'est les choses mondaines. Et nous-mêmes, ces choses qui sont dans le monde, nous aimons les choses de la chair. Nous sommes des êtres humains loin de Dieu. Venez écouter Dieu, écouter une prédication, les choses de Dieu. Non, ceci ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée par ces choses. Je veux simplement les choses de la chair, du monde. Les gens ont été sauvés par ce verset. Et auparavant, ils n'avaient pas réalisé que leur vie est si limitée sans le salut. Ils sont des gens qui ont chuté loin de Dieu, car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et les gens m'ont dit, « Oh, soudainement, ceci m'a réveillé. Moi, j'aime uniquement les choses de la chair. Je suis une personne limitée, si limitée aux choses matérielles. » Et je n'ai pas de cœur, de pensée, de compréhension pour quoi que ce soit de plus grand, de supérieur, d'éternel. Et alors j'ai réalisé ma petitesse et combien je suis insignifiant, corrompu. Et un homme m'a dit un jour, je me sentais comme un escargot. Et ceci est vrai. Mais ceci n'est pas dit pour nous condamner, mais pour nous réveiller et réaliser la miséricorde de Christ. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Oh, peut-être qu'ils font de bonnes choses. Ils peuvent aider d'autres personnes parfois. Et peut-être qu'ils pensent qu'ils sont de bonnes personnes à cause de cela. Mais quand ils regardent en eux-mêmes, et ceci est vrai pour chacun d'entre nous avant notre conversion, tout est dans la chair. Si je fais quelque chose de bon, ce n'est pas pour Dieu. Je ne le remercie pas. Je n'ai pas cette gratitude envers lui, cet amour pour lui. Je ne le sers pas, je ne lui obéis pas. Mais tout est pour maintenant, pour moi, pour le monde, pour les choses matérielles, pour les gens autour de moi. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Rien pour Dieu. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit, par la miséricorde de Dieu, uniquement par sa grâce, la vie a été mise dans leur cœur. Nous nous sommes confiés en Christ, nous avons été humiliés et nous dépendons uniquement de lui. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. À présent, ces choses sont si importantes pour nous, si précieuses pour nous, et nous voyons cette vie présente dans un contexte spirituel. Et l'apôtre Paul répète ceci à nouveau, verset 6, « Car l'affection de la chair, c'est la mort. La fin, c'est la mort éternelle, loin de Dieu. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix, cela signifie la réconciliation avec Dieu, cette paix avec lui, de le connaître, de marcher avec lui. » Et à nouveau au verset 7, « Parce que l'affection de la chair, avant que nous soyons sauvés, nous vivons uniquement pour la chair, pour le monde, pour nous-mêmes. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, ennemi contre Dieu, hostile à Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut pas. » Oh, j'aurais souhaité avoir le temps de considérer plus ce verset, parce que c'est si profond. Nous n'avons pas ce désir de lui obéir. Bien sûr, la loi de Dieu peut-être peut intéresser le monde inconverti quand nous trouvons que ceci est pour notre intérêt. Oh, nous allons accepter cette loi, tu ne tueras point, parce que ainsi nous serons tous en sécurité. Nous sommes d'accord que nous ne devons pas voler parce que nous aimons bien, que personne ne nous vole nos biens. D'une certaine manière, dans une certaine mesure, nous aimons que la loi de Dieu soit appliquée dans notre société, mais la loi dans son entièreté est la première table de la loi, d'adorer le Seigneur, de dépendre de lui, de le servir. Nous ne voulons pas cela. La loi dans son entièreté, nous la rejetons. Nous ne sommes pas soumis à la loi de Dieu et en effet, nous ne pouvons pas. Et ensuite, se résumer au verset 8, « Or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Si vous n'avez jamais été converti, si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Au verset 9, « Mais vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, vous avez été transformé. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, tous ceux qui sont convertis à Christ, l'Esprit de Dieu habite en eux. Certaines personnes ont rendu toutes ces choses confuses en disant qu'après votre conversion, vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est une grande erreur. Et c'est une mauvaise compréhension de la Bible. Mais si vous êtes réellement sauvés, le Saint-Esprit vient en vous. Et le salut, c'est là le baptême de l'Esprit à la conversion et pas après. Vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Vous n'avez pas besoin de trouver l'Esprit après votre salut. Non, l'Esprit entre en vous au moment même, à l'instant même où vous êtes sauvé. Et au verset 10, « Mais si Christ est en vous, par son esprit, voyez-vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. » Ce n'est pas difficile de comprendre cela. Qu'est-ce que cela signifie? Le corps est mort à cause du péché. Oui, cela signifie que votre corps est encore sous la sentence de mort. Et toute la race humaine également est sous la sentence de mort. Vous allez mourir dans votre corps. Votre corps, comme le corps de tous les hommes, sauvés ou non, mourra. Mais vous, vous ne mourrez pas, parce que à présent, spirituellement, vous êtes en vie, et votre esprit va continuer à vivre, et un jour, votre corps sera ressuscité, et reconstitué, et glorifié, et rendu spirituel, et rejoint à votre âme, quand Christ reviendra. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché. Le corps doit mourir, vous allez mourir. Mais l'esprit est vivant, votre âme est en vie. Et au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Sans aucun doute, ceci parle de la résurrection. Un jour, votre corps ressuscitera, sera reconstitué, sera rendu glorieux et sera uni à nouveau avec votre âme. Et cette conclusion au verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, à la lumière du fait que même ce corps corrompu sera ressuscité d'une manière glorieuse dans le futur, dans l'avenir, à la lumière de ceci. » Vous devez tant au Seigneur. Vous voulez vivre pour lui, pour les choses spirituelles, pour la sanctification, grandir dans la sainteté. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Si vous vivez pour la chair, cela signifie que vous n'êtes pas converti et vous allez mourir. Au verset 13, en effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous ne pouvez pas être réellement converti si votre esprit, vos espoirs, vos aspirations, vos désirs sont uniquement pour les choses présentes et terrestres. Ou bien sûr, vous devez vivre sur cette terre, vous devez vivre votre vie et pourvoir pour vous-même, pour votre famille, pour votre maison, vos vêtements, votre nourriture, etc. Oui, bien sûr, chacun doit prendre un certain temps pour les choses terrestres, mais ce n'est pas là tout. Si vous vivez selon la chair, si vous êtes dévoué uniquement pour les choses terrestres, le plaisir et les désirs, alors l'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas converti, vous mourrez. Mais si, au verset 13, par l'esprit, Vous faites mourir les œuvres du corps par la capacité que nous donne l'esprit. Si vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Ceci prouve que vous êtes un chrétien réellement converti. Mes chers amis, j'aimerais continuer. Le deuxième point, c'est que ce progrès dans la sanctification, c'est grandir dans notre vie. Et j'aimerais en parler brièvement. Ceci est progressif. Et au chapitre 7, verset 14, rapidement, l'apôtre Paul, sans aucun doute, décrit lui-même en tant que chrétien, en tant qu'homme chrétien. Et ici, il nous montre combien il y a une bataille contre le péché qui se passe constamment. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, dit-il. Romains 7, verset 14. Ces paroles sont si fortes que beaucoup de gens disent « Non, l'apôtre Paul se décrit ici avant sa conversion. Il parle de lui-même comme il était auparavant, avant sa conversion. » Mais non, ce n'est pas le cas. Quand vous étudiez ce passage, il parle de lui-même en tant qu'homme converti, en tant qu'apôtre. Et souligner que l'apôtre Paul, son standard pour lui-même est très haut. Il est si plein de détresse à cause de son péché. Oh, si nous avions eu le privilège de vivre à la même époque que l'apôtre Paul, je pourrais dire que nous n'aurions trouvé aucune faute en lui. Mais dans son esprit, il savait qu'il était un pécheur et qu'il combattait contre le péché, et ce processus de la sanctification continuait dans sa vie, et c'est ainsi qu'il l'explique. En effet, nous savons que la loi est spirituelle et bonne, mais moi je suis charnel, vendu au péché. J'ai encore ma vieille nature de péché en moi, il semble dire. Et ensuite, ce passage un peu déprimant à la surface si nous ne lisons pas tout ce chapitre, au verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » L'apôtre Paul ne dit pas qu'il est plein de péchés, mais il a ses standards élevés dans sa vie. Mais il se lamente. Et sa faiblesse qui continue jusqu'à notre mort. Et ensuite, au verset 18, « Car je sais que dans ma chair, c'est-à-dire dans cette vieille nature, que le bien n'habite point en moi, il y a toujours ces désirs égoïstes, ces mauvaises suggestions qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien. » Voyez-vous, il est converti, il aspire à grandir dans la sanctification, mais je ne parviens pas à l'accomplir, je ne vois pas ça en moi-même. Bien sûr, il y arrive par l'aide de Dieu, et il dira ceci dans un moment, « Car je ne fais pas le bien que je veux, » au verset 19, « mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » Le péché habite en moi, dit-il au verset 20. Et au verset 21, « Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » L'apôtre Paul dit par exemple, « Je vais aller prêcher, je suis malade, je ne me sens pas bien, les gens sont hostiles contre moi. » La dernière fois que j'ai prêché dans cet endroit-là, ils ont jeté des pierres et des rochers sur moi. Mais je veux aller pour prêcher. Et une autre voix en lui dit, « Non, n'y va pas, ce n'est pas raisonnable qu'il te traite ainsi. Et tu es malade, tu n'es pas bien. » Et il est tenté profondément en lui-même d'abandonner cette tâche et cette œuvre. Mais par l'aide de Dieu, il continue et il prêche l'Évangile. C'est tout ce qu'il dit. S'il y a cette voix en moi égoïste qui parle, c'est là ce qu'il veut dire dans ce chapitre, au verset 21. « Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Cette ancienne nature est encore là. Si vous êtes sauvé, vous avez une nouvelle nature, mais cette vieille nature est encore là en vous et constamment elle va murmurer des choses. Et nous combattons toute notre vie contre cette vieille nature. Au verset 22, ce verset prouve qu'il est un vrai chrétien. Il parle de lui-même après sa conversion. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. J'aime sa loi, dit-il. Il est un homme sauvé, voyez-vous. » Verset 23, « mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres, dans mon corps, dans mes désirs. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort ? Et au verset 25, « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas sans espoir. Je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » Il y a cette ancienne nature-là, ces anciennes tentations, ces anciens désirs, mais nous pouvons les vaincre. Et au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'écouter le murmure de cette ancienne nature, parce que l'Esprit de Dieu est avec vous. Et vous pouvez prier, et vous pouvez lire les Écritures, et vous pouvez vous prendre en main, et vous aurez l'aide de Dieu. Et cette nouvelle nature peut vaincre cette ancienne nature et vous pouvez résister à ces murmures, à ces tentations de l'intérieur. Cette bataille est là tout le long de notre vie. Mais vous avez tout l'équipement et Dieu vous l'a donné. Et Dieu a mis en vous l'Esprit Saint. Et ceci nous amène au verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie, parce que nous ne voulions pas obéir à la loi, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils qui a ôté la condamnation du péché pour les croyants, verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mes chers amis, nous devons accélérer, nous sommes sanctifiés par l'aide du Saint-Esprit. Comment est-ce que ceci fonctionne? Et je vais être rapide et vous donner différents points pour vous encourager. D'une manière évidente, l'Esprit nous sanctifie d'abord par la parole de Dieu. Et le Sauveur a dit ceci dans sa prière pastorale, « Seigneur, sanctifie-les par ta parole. » Dans sa prière pastorale, dans Jean 17, ou si vous laissez de côté la lecture de la parole de Dieu, ou que vous lisez superficiellement, qu'elle ne vous parle plus, alors vous n'allez pas progresser dans la sanctification et notre conscience ne parlera plus, elle ne sera plus réveillée et sensible. Le Saint-Esprit nous sanctifie par l'Écriture et nous convainc de péché. Il amène notre attention à ces péchés, ces choses que nous omettons et nos responsabilités. Plus nous lisons l'Écriture, plus l'Esprit œuvre par l'Écriture. Toute Écriture, Paul dit ceci à Timothée, toute Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et elle est bonne pour l'instruction. Vous vous souvenez de cette liste? Pour corriger, pour exhorter, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, c'est-à-dire entièrement équipé et mûr. La lecture de la parole de Dieu est une source merveilleuse de l'influence de Dieu qui nous sanctifie par l'Esprit dans notre vie. Deuxième chose, rapidement, il y a l'œuvre de l'Esprit dans notre conscience. Un texte important est dans Galates chapitre 5 et versets 16 et 17 quand l'apôtre Paul dit: je dis donc, marchez selon l'Esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Ainsi, quand cette vieille nature qui est là en vous, vous murmure des suggestions, ne fais pas ceci, mais fais plutôt cela, fais cela, dis ceci, réagis. Marchez selon l'Esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à la chair. En d'autres termes, le Saint-Esprit va œuvrer dans votre conscience. Et cette suggestion qui vient en vous, ce désir pour le péché, cette conscience va être touchée par le Saint-Esprit. Car la chair a des désirs ou combat contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Ainsi, par la prière, en gardant ma conscience en vie et sensible, le Saint-Esprit va œuvrer dans ma conscience et ces suggestions qui viennent de l'ancienne nature vont en venir à la conscience et la conscience va être réveillée et immédiatement je vais examiner ces choses. Et si je réponds favorablement à l'œuvre de ma conscience en disant « Seigneur, aide-moi » et je veux mettre à mort le péché, je veux supprimer ce péché et l'éviter, alors tout ira bien. Mais si je dis « Oh non, je vais dire cette mauvaise chose de toute manière, je vais faire cette chose de toute manière et je vais mettre de côté ma conscience. » Ceci est terrible, chers amis, parce que le Saint-Esprit va œuvrer dans votre conscience, peut-être une autre fois encore, et peut-être dans sa bonté, dans sa miséricorde, encore à nouveau une troisième fois. Mais après cela, qui sait? Peut-être qu'il va vous laisser de côté, et alors votre conscience ne parlera plus, et vous n'aurez plus cette conscience, cette examination en vous, et alors vous allez tomber dans le péché, et vous allez faire ces choses de manière naturelle, et vous allez vous mettre en colère de plus en plus et vous allez commettre ces péchés de plus en plus et vous allez de plus en plus regarder ces mauvaises images impures. L'Esprit œuvre dans la conscience et ceci est précieux et essentiel et vital. N'ignorez pas la conscience, n'ignorez pas l'Esprit, ne la mettez pas de côté, n'éteignez pas l'Esprit et la conscience, ne la rendez pas silencieuse. Le Saint-Esprit, bien sûr, également œuvre en vous aidant à mettre à mort le péché. Pasteur Ibrahim a prêché sur ceci récemment. Mettre à mort le péché. Il y a quelque chose que nous devons faire. Mettez à mort le péché et arrêtez le péché dans sa course. Bien sûr, par la prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Délivre-moi de ce péché qui vient constamment. Et vous priez sincèrement. Les puritains enseignaient ce qu'ils appelaient la détestation du péché. Ce péché avec lequel vous combattez, méditez un peu de temps en temps sur l'horreur du péché, sur combien le péché est hideux et infectieux et il progresse pour prendre toute votre vie et tout ce qu'il a détruit dans votre vie et tout ce que Satan détruit dans de nombreuses vies de manière à ce que vous puissiez haïr le péché et détester le péché. Si vous détestez le péché, alors ceci va vous aider puissamment à résister. Et ensuite, méditez sur les conséquences du péché également. Ceci va ôter le fruit que je peux porter pour le Seigneur, va ôter mon témoignage et je ne serai plus une aide envers mon époux, mon épouse, mes enfants et d'autres personnes. Ceci va me détruire, ceci va s'étendre dans ma vie et apprenez à détester le péché, méditez sur ses conséquences. Tout ceci nous aide pour résister au péché. Bien sûr, il y a d'autres manières également, et nous n'avons pas le temps de considérer ces choses. La correction du Seigneur également. Le Seigneur nous reprend, nous corrige. Il y a ces temps de souffrance, de maladie. La maladie n'est pas toujours une correction. Non, la correction vient dans différents aspects. Une personne chrétienne peut soudainement souffrir de quelque chose. Ils sont privés de quelque chose qui est très important pour eux. Ça peut être une correction de la part du Seigneur. Mais si ça l'est, alors vous le saurez. Vous ne serez jamais dans la confusion. Si le Seigneur vous enlève la bénédiction et arrête d'interagir avec vous. Les puritains appelaient ceci le fait que Dieu nous déserte. Et ainsi, nous ne ressentons plus cette assurance et le fait que nous marchons avec lui. Mais si c'est une correction de sa part, vous le saurez parce que vous savez qu'il y a un péché dans votre vie, que vous résistez ou un manque d'obéissance. Dieu n'est pas comme un parent qui est impulsif et qui corrige son enfant et l'enfant ne sait pas pourquoi. Non, nous savons pourquoi Dieu nous corrige quand il nous corrige. Et nous avons cette occasion pour nous repentir et pour revenir au Seigneur. Il y a une autre manière par laquelle l'Esprit œuvre en nous aidant l'un l'autre, en nous corrigeant l'un l'autre, entre amis. Quand l'un erre du chemin, l'autre le reprend. Également, mari et femme, femme et mari. Est-ce que vous êtes une personne qui n'écoute pas les autres et personne ne peut vous reprendre? Votre époux, votre épouse. Et j'ai parlé de ceci la semaine dernière en passant. Mais pensez un peu à ceci, chers amis. Quel orgueil nous a pris pour que nous ne puissions plus être repris par quelqu'un qui nous aime, qui est proche. Oh, nous sommes devenus si durs. Nous sommes déterminés à pécher et nous avons renoncé à cette affection mutuelle. Nous n'écoutons plus les autres. Oh, chers amis, faites bien attention que ceci ne passe pas dans votre vie. Le fait de se reprendre l'un l'autre entre amis, ceci est une aide. L'Esprit œuvre par différentes manières pour sanctifier ses enfants. Oh, chers amis, nous avons considéré le besoin du salut. Il n'y a pas de sanctification, de progrès sans le salut. C'est le début du processus de sanctification et c'est une œuvre qui va durer toute notre vie pour progresser dans la sainteté. Nous avons vu que c'est par l'Esprit qui utilise la parole de Dieu, qui utilise la conscience, qui requiert le fait que nous mettions à mort le péché par son aide. Et nous avons considéré toutes ces choses, chers amis, aspirer à grandir. Et c'est là la grande promesse de Christ dans Matthieu 5, l'une des grandes béatitudes. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Rassasiés de quoi? De la justice, oui. Et en particulier au jour dernier, mais également cette assurance et ce fruit pour le Seigneur et cette utilité pour lui et cette compréhension, cette lumière et cette compréhension de la parole de Dieu, ces bénédictions spirituelles, ces privilèges, ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cette promesse de Christ.